France Musique. Sous la couverture, Philippe Venturini, France Musique.
Bonjour. La disparition très commentée de Michel Legrand, le renom international de John Williams, la collaboration fameuse entre Bernard Herrmann et Alfred Hitchcock rappellent à quel point la musique de film a su imbiber la mémoire collective. Grand spécialiste de ce répertoire, mais aussi compositeur et réalisateur, Michel Chion, mon invité, vient de mettre à jour son ouvrage de référence consacré à la musique au cinéma. Son histoire, son rôle, son répertoire, ses principaux auteurs. La musique au cinéma de Michel Chion, publié chez Fayard. Il est sans doute un peu tôt pour aller au Korova Milk Bar pour retrouver Alex et ses amis, mais bon, c'était, vous l'avez certainement reconnu, la musique du générique hein, d'Orange Mécanique de Stanley Kubrick, une musique de Wendy Carlos d'après les Funeral Sentences de Henry Purcell. Bonjour Michel Chion.
Bonjour Philippe Antoni.
Donc j'ai rappelé le titre de votre livre, La musique au cinéma et non pas la musique de film, bien évidemment, c'est totalement différent. Alors justement, on est en plein dedans, me semble-t-il, parce que nous avons une musique originale, Purcell, adaptée par un compositeur de notre temps, Wendy Carlos, à la demande donc de Stanley Kubrick pour accompagner son film. Une musique qui est utilisée donc dès les premières images du film et qui tout de suite installe un climat, puisque comme souvent chez Kubrick, il y a de longs plans sans parole, et là, en quelques secondes, on est tout de suite saisi.
Oui, c'est un début fulgurant. Je me rappelle quand j'ai vu le film à sa sortie en 71 ou 72. Après, le film, selon moi, se dilue un peu, mais effectivement, c'était un bon exemple puisqu'on a un arrangement. Mm-hmm. Là, Wendy Carlos, qui s'appelait Walter, avant oui. De changer de sexe, de genre, comme on dit, avait fait à la demande de Kubrick, évidemment, un arrangement, une orchestration, comme finalement ça se faisait dès le début, dès le cinéma muet, où on arrangeait des airs classiques. Et donc, je joue pas du tout l'une contre l'autre, la musique originale et la musique dite originale, la musique empruntée, parce qu'en fait, ça se touche et ça cohabite très longtemps.
Ouais.
Et c'est pour ça, effectivement, j'ai appelé le livre « La musique au cinéma ».
Ouais. Et vous rappelez, Michel Echon, qu'en fait, dès l'origine, dès le début du XXe siècle, que la musique a accompagné le cinéma. Ça pouvait être des musiciens qui jouaient, des pianistes, des petits ensembles, même de la musique enregistrée.
Oui, c'est ça. Tout au début de cinéma muet, c'était plus rarement la musique enregistrée, pour des raisons d'ailleurs d'une part de synchronisation et d'autre part de puissance d'amplification, électrique, et la synchronisation n'est arrivée que plus tard grâce à sous la pression, je crois, de la popularité de la radio, qui faisait que les gens voulaient de la bonne musique et pas des musiciens un peu fatigués qui jouent plusieurs heures par jour en direct, et donc à la fin des années 20, et d'ailleurs le cinéma est devenu parlant, comme on dit de nos jours, d'abord pour être en fait un cinéma musical synchronisé avec des bonnes musiques préenregistrées.
Et c'est ça, et donc vous vous rappelez, Michel Echon, que en fait très tôt, cinéma et musique vont aller de pair. Vous parlez d'ailleurs de 125 ans de compagnonnage en fait entre les deux disciplines, entre les deux arts.
Oui, ben oui, de la première édition c'était 100 ans parce qu'il est sorti à l'occasion du centenaire du cinéma, enfin pas à l'occasion d'eux, mais la même année qu'eux. Ouais. Et oui, c'est un compagnonnage d'ailleurs qui, je le dis quelque part, que je conseille pas à tous les compositeurs et musiciens, parce que si on fait de la musique pour un film, il faut s'attendre que même le succès soit parfois douloureux. Et je cite l'exemple de certains compositeurs de grande qualité comme Bernard Herrmann, on pourrait en ajouter d'autres, qui, en raison de leur succès pour l'écran, n'ont pas eu la possibilité d'intéresser à leur musique d'opéra. Et ça se reproduit perpétuellement.
Mais il y a eu aussi l'exemple de Maurice Jobert, par exemple.
Jobert, oui, qui est mort très jeune à la guerre. Et par exemple... ou même Maurice Jarre, qui avait fait des musiques de ballet, même Nino Rota. Parfois, c'est pas facile.
On est enfermé, en fait. On est étiqueté compositeur de musique de film.
Exactement.
Ouais.
Et donc, je me rappelle que peut-être même dans ce même studio, il y a très longtemps, Claude Samuel, directeur de France Musique, avait organisé une rencontre. Il y avait Antoine Duhamel, compositeur, qui savait que j'avais écrit ce livre sur plusieurs livres déjà sur la musique et sur le son au cinéma, et qui a tenu à m'offrir comme ça spontanément de lui-même un disque où figure un trio à cordes de lui, comme un geste symbolique, comme c'était à me dire j'ai aussi
je
composé
aussi faire ça,
ailleurs que pour le cinéma. Mais évidemment, il était invité à titre de musicien de film. Thank you.
La célèbre musique de Carlos D'Alessio, India Song, le film de Marguerite Duras. Michel Chion, alors, votre livre, je l'ai dit, retrace d'abord l'histoire un peu de la musique au cinéma, comment elle est apparue, sous quelle forme, quel genre de compositeur on a pu solliciter. Mais ce qui est intéressant, c'est d'étudier le rôle que la musique peut avoir, non pas seulement d'accompagner une scène de suspense, mais aussi comment est-ce que peut donner un rythme, une structure à un film. Il y a même des films muets qui font référence à la musique pour organiser leur structure, comme s'il avait une sorte de solfège du cinéma.
Oui, c'était le rêve de certains réalisateurs, notamment dans les années 20. Avec
vous parlez de Murnau et de l'Aurore,
De faire du film une musique pour les yeux.
C'est ça, oui.
Mais en même temps, comme il était de coutume d'accompagner les films par de la musique, les grands films de Murnau, notamment ce fait en Allemagne, et puis aussi l'Aurore qui était réalisé aux États-Unis, étaient présentés accompagnés de musique. Mais si on les regarde, j'ai eu la chance... pas personnel, mais de découvrir ces films à l'époque où la Cinémathèque française, selon le désir d'Henri Langlois, son fondateur, présentait ses films sans aucune musique. Alors on disait, mais c'était pas comme ça à l'époque, disait, ça fait rien, sans aucune musique. Et du coup, on était beaucoup plus sensible à la polyrythmie
bien
sûr,
des images,
ouais. Ces jeux de vitres transparentes, de reflets, de mouvements qui sont absolument fantastiques. Mais effectivement, maintenant, quand on présente ou quand on édite l'Aurore ou les films de Murnau, on met un accompagnement musical qui parfois est absolument déplorable, c'est infect, c'est un pauvre piano qui improvise, je sais pas, c'est vraiment désolant. Et d'autres fois, évidemment, de bonne qualité, mais il faut y mettre les moyens, bien sûr.
Ouais, ouais. Et alors, Michel Chion, comment est-ce qu'on parvient à un équilibre entre la musique et les images? Comment faut-il faire pour que la musique ne cannibalise pas le film? Parfois, elle peut prendre le dessus. Comment faire pour qu'elle soit présente sans trop prendre le devant de la scène? Il y a plusieurs rôles que l'on peut assigner de toute façon à la musique au cinéma.
Oui, et ça a énormément changé. Il y a des films ou des périodes de l'histoire du cinéma où la musique d'abord, je parle de la musique symphonique par exemple, si on prend L'amour aux trousses dont je parle abondamment dans mon livre qui date de 58, la musique de Bernard Herrmann est expressément écrite pour accompagner les scènes mais ne pas être conscientisée. Maintenant, les gens la connaissent par des disques, mais à cette époque-là, on sortait pas des disques d'une partition symphonique. C'est admirablement fait, admirablement joué, et elle a l'air d'être là naturellement, alors qu'il a fallu plusieurs années pour créer des façons pour la musique d'entrer en scène et de quitter discrètement sa place, c'est de laisser des scènes avec dialogue et musique ou parfois sans dialogue, comme dans le même film, la scène de l'attaque par l'avion. Et c'était un art qui a passé par créer tout de suite. Et pas si longtemps après, la musique est devenue beaucoup plus en dehors, notamment sous la forme de chansons, etc., etc. Donc, parfois, certaines musiques de films ont une circulation plus grande que le film lui-même, et les gens ont du mal à voir le film sans penser à la chanson dont ça a été le thème, etc. Et donc, ça se contrôle pas, en quelque sorte, quoi. Et dans certains cas, certains réalisateurs préféraient qu'il n'y ait pas de musique ou très peu. Et ça peut faire des très bons films, mais dans lesquels souvent l'absence même de musique signifie quelque chose. C'est toujours ressenti comme signifiant quelque chose. Comme chez Haneke, par exemple. Il y a un peu de musique qu'écoutent les personnages, mais très peu, des petites pincées.
Et vous rappelez, Michel Chion, et ce, dès le début aussi de l'histoire du cinéma, qu'il y a eu d'emblée des musiques spécialement composées pour le cinéma, mais aussi des musiques existantes qu'on retravaillait, comme tout à l'heure le cas de Wendy Carlos et André Purcell, mais des airs populaires qu'on pouvait réaménager pour accompagner au piano un film muet.
Tout à fait. Dans le période du cinéma muet, la technique de l'arrangement de musique classique, disons classique populaire, du genre des cygnes et tout ça, et la rêverie de Schumann, plus des airs populaires, mais souvent de la musique classique familière, connue, clair de lune et tout ça, était plus courante. Pourquoi? Parce que si on écrivait une musique originale pour un film et qui était censé accompagner tout le film, il aurait fallu que les musiciens qui la jouent pour de vrai dans les différentes salles la répètent à chaque fois. Or, il n'y avait pas le temps, ils jouaient réellement, chez Ernos. Et donc, les chefs d'orchestre ou les petits groupes, etc., avaient un répertoire de compilation adapté à différents types de scènes. Et puis, on s'arrangeait pour faire entendre un galop, emprunter un Tchaïkovski, je ne sais pas quoi, et un thème d'amour, etc. Et ça a perduré très longtemps. Et ça, à vrai dire, ça se continue. Et beaucoup de films récents, on continue le principe qui n'est pas plus mauvais qu'autre chose.
Cette valse un peu grimaçante qui part un peu en biais, c'est la musique de générique des yeux sans visage de Georges Franju, musique du grand et célèbre compositeur Maurice Jarre. Michel Chion, il y a comme ça quelques grands noms, j'ai cité tout à l'heure, vous l'avez mentionné également, Bernard Herrmann. Maurice Jarre aussi fait partie de ces grands noms de la musique de film. Est-ce que chacun de ces compositeurs avait un style que l'on pouvait reconnaître? Parce que leur travail, c'était quand même aussi de s'adapter aux cinéastes, aux réalisateurs avec lesquels ils allaient travailler.
C'est vrai, mais dans certains cas, c'est un peu comme certains compositeurs classiques. Mozart n'écrivait pas dans le même style, suivant qu'il écrivait un opéra,
bien sûr,
un aria, etc., une messe ou un quatuor. Donc, effectivement, il y a une versatilité de style. D'ailleurs, certains musiciens étaient fiers.
Jarre, si on pense à Laurence d'Arabie, c'est vraiment
complètement
différent. Voilà,
c'est ça. Mais c'est différent. En même temps, il y plaçait quelque chose de personnel. Par exemple, Maurice Jarre a une carrière très diverse. Dans les derniers films qu'il a fait, il mettait beaucoup de synthétiseurs, notamment les musiques pour les films de Peter Weir, Cercle des poètes disparus. Et je trouve que quand il est décédé, on n'a pas rendu justice à la variété de sa production. Enfin, c'est fait partie des. Michel Legrand, c'est tout à fait justice parce que c'était un grand musicien, un grand compositeur. Et associé à des films très identifiés dans le cinéma français, qui sont magnifiques. Mais Maurice Jarre, étant donné qu'il est allé aux États-Unis, il a quand même fait des superbes choses après ce qu'il avait fait en France, et notamment des films de genre divers, des films de Visconti, par exemple Les Damnés de Visconti, c'est lui, etc. Et parfois, on y reconnaît une petite touche orchestrale, mais voilà, quoi. Et donc, il essayait aussi de varier. Et il était, comme son fils, Jean-Michel, mais dans un contexte différent, très intéressé par le synthétiseur et la source du synthétiseur dans les films des années 80.
J'ai choisi Michel Chion en ouverture, donc le générique d'Orange Mécanique, film de Kubrick, réalisateur auquel vous avez consacré un passionnant ouvrage au cahier du cinéma il y a quelques temps. Est-ce que on peut dire que Kubrick a révolutionné la façon d'utiliser la musique classiques. Vous citez, il y a dans votre livre, après toute une partie historique, une sélection de 60 films marquants, aussi bien pour le cinéma que pour l'utilisation de la musique. Et vous avez mis dedans, bien évidemment, 2001, Odyssée de l'espace. Je pense que tout spectateur qui a vu le Beau de nuit bleu avec ses images célestes s'est gravé à jamais dans la mémoire.
Oui, et en fait j'ai pris 60 films parce que c'est bien, ça dessine un parcours, mais à chaque fois j'essaie de contextualiser, le résultat contextualise, et le retour, dirais-je, en force de la musique classique dans les films, reconnaissable comme tel, date de la fin des années 40, Bach notamment, et Vivaldi. Très présent, et à découvert, dirais-je, et parfois, d'ailleurs, indirect, puisque parfois Truffaut demandait carrément à Delerue un pastiche Vivaldi. Donc, en fait...
Pour la nuit américaine, par exemple.
Pour la nuit américaine, voilà. J'ai tendance à penser que... Moi, il y a des époques que j'ai connues, hein, ou d'autres, j'ai essayé de me documenter, d'interroger des gens et tout ça. On s'aperçoit qu'en fait, aucun film par lui-même ne crée un basculement. Hein. Il y a un ou deux films, mais c'est par exemple le Troisième Homme après la Deuxième Guerre mondiale, qui par l'usage d'un seul instrument, la sitar, une musique de caractère anodin, fait un tel contraste avec Vienne en ruine et le côté assez terrible de l'histoire, que ça a vraiment, c'est vraiment un film. Et quant à 2001, évidemment, le choc est venu non pas de ce qui est de musique classique, parce que le Beau de nuit bleu avait été utilisé 2 millions de fois, mais son introduction dans ce contexte et dans un film dans lequel il y a de longues séquences sans parole.
Le début, c'est, je ne sais pas combien, il y a au moins 20 minutes
de longues séquences, il y a 40 minutes de musique, de paroles, mais cette séquence sans parole, qui du coup on est conscient de la musique, existe à la même époque, c'est-à-dire en 68, 69, 70, dans des films de Sergio Leone, dans des films de Jean-Pierre Melville, et donc ça c'est quelque chose de l'époque. Des longues séquences d'action où les personnages n'ouvrent pas la bouche, ils parlent, quand ils parlent ils s'agissent pas, et quand ils agissent ils parlent pas.
La musique de fin de 8 et demi de Fellini, musique de Nino Rota. Michel Chion, évidemment, Nino Rota Fellini, une association fameuse.
Oui.
Dans votre livre, donc, La musique au cinéma, qui est une deuxième version, alors qu'est-ce que vous avez rajouté ? Vous l'avez évidemment réactualisé. Qu'est-ce que vous avez voulu ajouter ? Qu'est-ce qui vous a poussé à actualiser ce livre ?
Tout simplement le fait qu'il se soit écoulé 25 ans.
Et qu'il y avait donc des compositeurs qui vous semblaient intéressants aujourd'hui.
Et des films, et que le cinéma continue d'évoluer. Ouais. Et par exemple, Je pense que le phénomène Hans Zimmer est ce qu'il représente. Il compose énormément. D'ailleurs, c'est une véritable équipe autour de lui.
Ouais.
Mais un film comme Interstellar, la musique est vraiment bien trouvée. Et il y a des choses magnifiques, correspondent à des genres récents. C'est comme le cinéma ne cesse de changer. Si on faisait un livre sur le cinéma, il faut parler de ce qui se passe, de ce qui change. Et de même, des noms moins connus, comme ceux de Mika Levy. Par exemple, Mika Levy, je sais pas quelle nationalité elle est, mais elle a fait la musique d'un film qui a en apparence c'était un biopic un peu classique sur Jackie Kennedy, mm-hmm. Ça s'appelle Jackie. C'est Cécile Carriol qui a écrit un très bon livre elle-même sur le musique de film en France dans les années récentes qui m'a signalé. Elle m'a dit, il faut que vous voyez Jackie. Et Pablo Larraín, un réalisateur chilien, qui a réalisé un biopic avec Nathalie Portman en Jackie Kennedy. Et la musique est tout à fait étonnante, originale, inattendue. Et il y a plein de choses et il faut continuer, évidemment, à en parler et à suivre l'évolution de ça. Sachant qu'aujourd'hui, évidemment, on n'a plus affaire à des auteurs uniques, mais très souvent, la musique d'un film est une mosaïque de musique originale, de score, comme on dit, et de citations, d'emprunts, de musique liées à l'époque où ça se passe, etc., etc.
Très bien. Et puis, pour terminer, Michel Chouan, autre livre, après donc cette nouvelle version de la musique au cinéma qui vient de paraître chez Fayard, Des sons dans l'espace à l'écoute du Space Opera, qui vient de paraître chez Capricci. Alors là, c'est vraiment un autre genre, c'est la prolongation de ce travail.
Oui, l'édition Capricci m'avait contacté pour que je fasse un livre, alors j'ai proposé plusieurs sujets, celui-là leur a plu, sachant qu'il y a un intérêt renouvelé aujourd'hui pour les films qui se passent dans l'espace, en raison du fait qu'on se remet à penser à envoyer des humains, n'est-ce pas, les Chinois s'y mettent, etc. Par exemple, le film qui n'est pas le meilleur film, mais qui est un bon film, je trouve, Seul sur Mars de The Martian, de Ridley Scott, montre de façon positive, quelqu'un qui arrive à survivre. Ça rejoint le genre de survival movie sur Mars et Matt Damon, etc. Et donc, je suis l'évolution de ça depuis évidemment les débuts, c'est-à-dire quasiment les années 20. Hein. Il y a le film muet de Fritz Lang, Une femme sur la Lune. Et oui, c'est une chose qui... J'ai fait par ailleurs un livre sur la science-fiction et ça s'appelle, comme vous l'avez dit, Des sons dans l'espace, c'est-à-dire que ça traite aussi la question de qu'est-ce que je fais entendre, ce que je fais pas entendre, avec ce savoir que les gens sont persuadés de l'avoir. Il n'y a pas de son dans l'espace, donc je ne veux rien entendre, etc. Ce qui est un peu formel, je trouve, parce que, en fait, pourquoi n'entendrait-on pas un vaisseau spatial rugir? Alors, je parle d'une part de la question du sonore et de la question de la musique et du fait de savoir si on les confond l'un dans l'autre, ou si, comme l'a fait la Guerre des Étoiles, par exemple, au contraire, on les écarte l'un de l'autre en faisant musique symphonique sans instrument électronique pour la partition de John Williams et effet sonore spécifique dans un autre monde, dans le monde de l'action, pour la partie action.
Très bien, merci beaucoup Michel Chouan. Je rappelle le titre donc de vos deux livres, La musique au cinéma chez Fayard et Des sons dans l'espace à l'écoute du Space Opera chez Capricci. Il y avait aujourd'hui Adrien Roch à la réalisation, à la technique Olivier Dupré, attaché de production Annick Aumier. Je vous retrouve avec grand plaisir samedi prochain. D'ici là, excellente journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.